Bon, ben, bonjour à tous. Ben, pendant que vous mangez, on va essayer de vous parler de bande dessinée avec Silvio Camboni, un auteur qui vient de Cagliari, je crois.
Oui.
En Sardaigne. Exactement. Ouais. Silvio est italien, donc il travaille, fait de la bande dessinée. Quoi. Et Silvio, moi, je vais te poser une première question. La bande dessinée, ça a commencé comment pour toi?
Quand j'étais petit, tu sais, en Italie, on a Disney, c'est très fort. Et donc, j'étais collectionneur de Topolino, qui c'est le magazine de Disney le plus vendu en Italie. Et à l'époque, je vois qu'il faisait 700 000 copies par semaine. Donc, c'était énorme. Et moi, j'étais super fan de ça. Et je me disais que j'aimais vouloir essayer de faire du Disney. Et donc, quand j'avais, j'avais 25 ans, j'ai commencé à le faire au niveau professionnel et après ça continue.
Mais alors pour faire de la bande dessinée, est-ce que tu as fait suivi une école particulière, fait des études, quel est le cursus que tu as utilisé?
Non, rien de vraiment particulier. J'ai fait le lycée artistique, après je suis devenu architecte, donc c'est pas vraiment de la bande dessinée, de l'école de la bande dessinée, mais quand même c'est dans une demande artistique.
Oui, ouais. Mais il y a quand même quelques gens qui ont fait des études d'architecture, ça veut dire des grands auteurs BD comme François Skelten, même Jacques Delostal aussi, qui est architecte, même si ça ne se sent pas dans ses BD.
Voilà, mais après, quand tu fais de la BD, tu as toujours de l'architecture à dessiner, donc ça va être utile.
Ça, on va le voir dans ce que tu as fait. Donc, ouais, donc tu as 23, 25 ans, tu commences à dessiner, et tu fais du Disney, tu es embauché par Disney ou quoi?
Oui, je faisais que du Disney parce qu'à l'époque c'était ça mon rêve. Ouais. Après, bon, c'est ça que je voulais faire. Après, je commençais à avoir des espoirs de faire des choses plus personnelles. Et donc, à un certain moment, j'ai eu l'occasion de commencer aussi pour la BD, notamment pour Gargouille. Parce que je ne sais pas si tu connais l'histoire de Gargouille, mais il y avait un dessinateur qui avait créé l'univers, c'était Étienne Jung, avec Denis Pierre-Philippi au scénario. Après le tome 1, il a quitté la série. Et donc, les Humaneux Associés m'avaient demandé à l'époque de m'engager dans cette série. Bon, j'ai commencé et après, on n'a jamais arrêté, parce qu'avec Denis Pierre-Philippi, on a fait plein d'autres choses après. On est devenu amis et donc ça va.
Ouais, donc, tu as repris Gargouille aux Humaneux Associés. Tu peux nous faire un peu nous raconter un peu l'histoire? Qu'est-ce qui se passe dans cette série?
Alors, Gargouille, déjà, c'est une série assez longue parce que c'est 7 tomes.
Oui, c'est de 7 volumes.
Et c'est l'histoire d'une jeune garçon, Grégoire, qui s'entraîne pour devenir mage. Et alors, il découvre une abbatiale tout près de chez lui où il y a des gardiens qui sont les gargouilles en pierre qu'il y a toujours dans les cathédrales gothiques, et, sauf qu'ils sont vivants. Et il découvre qu'ils sont des gardiens pour des portes qui amènent à des lieux magiques, à des univers magiques. Et ce sont des points de rencontre entre notre monde à nous et les mondes magiques quelque part. Et les gardiens sont eux qui gardent, qui font de façon que cette porte ne soit pas traversée pour des gens maladroits. Et donc, d'une façon, ils mettent en sécurité les personnes, d'autre façon, ils mettent en relation la magie avec notre monde. Et Grégoire va petit à petit, pendant la série, grandir en tant que mage, jusqu'au moment où il va boucler l'histoire, mais je ne vous raconte pas le final de l'histoire.
Non, on va raconter l'histoire. Hein. Ouais. Non, on s'aperçoit que Gargouille, cette série, sur les images qu'on voit à l'écran, si les gens les regardent, on s'aperçoit que c'est une série qui traite de magie, comme tu viens de le dire. Alors toi, qui est le dessinateur, qu'est-ce qui fait que toi, tu vas exprimer toutes ces magies à partir du dessin?
Bon, déjà, il faut trouver une clé pour interpréter le monde magique, parce qu'évidemment je suis jamais allé au monde magique, donc
oui,
il faut l'imaginer. Il faut imaginer donc des bestioles, de créatures merveilleuses, des univers particuliers où les règles ne sont pas les règles de notre univers à nous. Donc ce sont toujours des choses un peu déplaçantes pour le jeune lecteur. Et après, il y a Grégoire qui ne maîtrise pas vraiment la magie. Donc, parfois, il est un peu maladroite, sympathiquement maladroite, on peut dire. Mais à petit, comme il grandit, le lecteur va grandir avec lui pour apprendre à maîtriser la magie et à se relationner d'une façon, entre guillemets, normale avec la magie et les êtres merveilleux.
Donc, c'est une série quand même qui peut s'adresser à partir de gamins, à partir de 8, 9, 10 ans. On peut commencer à lire. Et ce qui est important, c'est que les héros sont des enfants. Ouais. Et donc, le lecteur, le jeune lecteur peut s'identifier avec eux et puis trouver chez eux quelque chose qui va nous entraîner dans cet univers imaginaire.
Oui, ça c'est une partie de l'affaire. Mais nous, on a le défi à chaque fois d'avoir une lecture possible à plusieurs niveaux. Donc, d'essayer d'entraîner, d'amener avec nous les adultes aussi, parce qu'ils vont trouver d'autres choses. C'est un peu comme Harry Potter, c'est une histoire pour les enfants. Mais après, je crois que les adultes peuvent aussi se retrouver dans les histoires. Ce sont des histoires universelles.
Oui, ce sont des histoires universelles qu'on lit à tout âge. Donc, toi, tu fais le dessin, mais il y a aussi un travail qui est important dans ce genre de série, c'est les couleurs.
Oui. Là, sur Gargouille, on a eu un peu de problèmes à ce niveau-là parce que Étienne Jung, il était dessinateur et coloriste. Et je peux dire qu'il était un superbe coloriste, un très bon dessinateur, mais surtout un superbe coloriste. Et nous, on a dû chercher des autres coloristes. On a essayé les premiers deux tomes, donc le 2 et le 3 avec Christelle Moulard. Après, on est passé à Bruno Olivieri qui a fait, je crois, entre deux ou trois tomes. Après, on a dû changer encore avec un coloriste espagnol qui s'appelait Rafa Ruiz. Donc, ça a un peu changé le style entre les albums, mais on a quand même gardé l'unité de l'ouvrage.
Donc, il y a un coloriste qui vient derrière toi. Toi, tu fais d'abord ce qu'on va voir, ce qu'on appelle un dessin noir et blanc, une planche en noir et blanc, dont on a un exemple là, et que quand on les regarde, on voit que tu mets énormément de détails.
Oui, oui. Là c'est une chose que j'ai appris en faisant de la BD, parce que chez Disney, c'est beaucoup moins détaillé, c'est plus stylisé quelque part. Mais je suis arrivé à comprendre que pour le lecteur français, c'était important de voir dans chaque case plein de détails, plein de particuliers. Et donc, à petit, j'ai rajouté des choses. Et après, quand tu vois, ce sont des univers particuliers. Donc, il faut faire rêver le lecteur. Donc, c'est un peu obligé comme choix.
Ouais, d'accord, de mettre beaucoup de détails, beaucoup d'informations dans les images pour que les gens s'y retrouvent dedans. Tu as fait aussi une autre série avant qui s'appelait Willy Wonder.
Ouais.
Avec Artibani, qui était aussi un confrère italien.
Oui, exactement. Bon, c'est un scénariste super. Je crois qu'en France, il est connu pour Monster Allergy.
Ah oui, c'est une super série. Le nom connaît.
C'est lui. On est copains depuis longtemps parce qu'on a bossé ensemble chez Disney en Italie. Ouais. Et donc, on s'est engagé dans cette série Willy Wonder. Là, c'est un peu l'envers par rapport à Gargouille, parce que là, on a un garçon qui vient de notre planète où sont tous des super-héros. Donc, ils ont tous des pouvoirs.
Ah, ouais.
Sauf qu'il a marre de ça. Il veut essayer d'être un garçon normal. Donc, il vient sur la Terre, il renonce à ses pouvoirs. Mais, bon, finalement, on découvrira que ce n'est pas possible parce que c'est un peu... Pardon ? Ah oui, non, mais... Après, il y a d'autres choses à découvrir. Hein. Mais là l'histoire, c'est vraiment ça. C'est un garçon qui a des pouvoirs, mais qui il fait un choix important de ne pas les utiliser parce qu'il veut être un garçon normal. Sauf qu'il arrive sur la Terre, il n'a pas de parents parce qu'il a quitté sa planète et sa famille. Donc, il doit se recréer une famille, une situation normale. Ça va être difficile. Donc, dans l'album, on raconte un peu ça.
Donc, on se rend compte que finalement, entre Gargouille, Willy Wonder, les gens avec qui tu travailles, je pense que toi, les gens avec qui tu travailles ont un goût pour la science-fiction, le fantastique, j'imagine que toi aussi.
Mais oui. Évidemment, oui. Mais après, je crois que les histoires, quand tu racontes des histoires, c'est toujours un peu magique, quelque part. Parce que je n'aime pas faire des choses réalistes où on raconte les choses réelles qui se passent normalement. Je crois qu'il faut rêver, et ça pour les lecteurs, mais pour les auteurs aussi. C'est un peu ça qui rend magique mon travail. Et donc, oui. Après, ça dépend, parce que parfois, tu ne maîtrises pas les choix de faire une série plutôt qu'une autre série. Tu fais des projets, parfois ça aboutit, parfois non, et donc ça dépend.
Alors oui, mais ce goût justement du magique, et, enfin, comme tu dis que tu as envie de faire rêver les gens, quand on est ça, tu puises où l'inspiration finalement? Est-ce qu'il y a des références, des auteurs, des livres, des films qui sont pour toi des films qu'il faut avoir vus, des livres qu'il faut avoir lus, ou qui t'inspirent complètement et qui te donnent des références pour créer tes univers?
Ben oui, évidemment oui, je suis un lecteur assez convaincu, assez dur, donc de fantasy, je connais par cœur tout l'ouvrage de Tolkien.
Le Meilleur des Anneaux.
Oui, voilà, aussi Isaac Asimov, voilà, La Fondation et tout ça, donc des robots, du fantasy, de la magie, mais plein d'autres choses. Dans la BD, quand j'étais petit, je vous ai raconté que j'étais fan de Disney, mais j'avais aussi toute la collection de Astérix et Lucky Luke. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment ça, la référence primaire, on peut dire.
Primaire, oui.
Primaire. Après, je lisais pratiquement tout, donc tellement de choses, ce qui m'arrivait dans mes mains, je le lisais.
Ouais, donc, ouais, comme beaucoup de gamins, ouais, on lit tout ce qui passe, et après, ouais, on en retient certains et d'autres pas.
Après, j'ai découvert Medius, Bilal, plein d'autres choses, donc voilà.
Donc, on va arriver quand même, bon, comme tu t'intéresses beaucoup à la science-fiction quand même, et à la magie, on va arriver quand même à la série pour laquelle on t'a surtout invité ici, c'est ce qu'on appelle les voyages extraordinaires. Donc, cette série, voyages extraordinaires, évidemment, il y a la référence, on peut le dire, à Jules Verne. Et la référence à Jules Verne est Nantes. Donc, comment cette série est arrivée dans les mains, finalement, parce que c'est le scénariste de Gargouille, Denis Philippi, qui t'a proposé de faire le voyage extraordinaire. Je vous ai dit, mais c'est le voyage extraordinaire.
Ouais.
Alors, on va un petit peu raconter l'histoire. Donc, on est dans une époque qui ressemble à peu près aux années 20 du...
Oui,
le 20e siècle.
Déjà, il faut dire qu'on est dans une uchronie.
Dans une uchronie, c'est
donc,
ça.
Donc, oui, on a des repères assez précis, mais on a une situation décalée par rapport à la réalité.
Alors, peut-être, Silvio, vous expliquez aux gens qui sont là, peut-être les gamins, ils ne savent pas tout ce que c'est réellement une uchronie, quoi.
Oui. Ouais. Une uchronie, c'est une situation où on a des données réalistes, c'est-à-dire, ouais, donc, on a dit qu'on était dans les années 30, plus, ouais, ou moins, mais on a une situation décalée par rapport à ce qui s'est réellement passé. Donc, la technologie est plus avancée par rapport à ce qu'elle était dans les années 30. On a des inventions incroyables qui sont avancées plus de ce qu'on a pu connaître. Et donc, les villes qu'on croise, Londres, Paris, New York, on a des villes qui ressemblent à ce qu'on a aujourd'hui dans la réalité, au mieux ce qu'il y avait dans les années 30, mais avec des architectures modifiées, des choses impossibles pour l'époque. Et donc, on se prend de liberté narrative qu'on ne pouvait pas avoir dans la réalité.
Oui, donc on voit à cette époque, c'est un monde qui est en guerre, qui ressemble à la guerre 14-18, ouais, sauf qu'il y a des robots. Ouais. Et des robots qui se battent. Donc, voilà.
Mais aussi les avions les voitures sont plus avancées. Ouais, ça ressemble plus à les voitures et les avions de la Deuxième Guerre mondiale, sauf, ouais, qu'il n'y est pas encore arrivé. Donc c'est un peu un mélange de deux.
Un mélange de choses qui ont existé et qui sont venues beaucoup plus tard. Donc le voyage extraordinaire, c'est une chronique, raconte l'histoire de deux enfants, Noémie et Emilien, qui eux ont la particularité de vivre d'une manière dans un arbre. Hein, voilà où ils vivent, Emilien et Noémie, dans cet arbre-là. Ça, c'est assez extraordinaire. Tout à l'heure, je faisais un truc avec Louise Jor et son héroïne vivait dans la forêt amazonienne et il a une cabane dans un arbre aussi. Donc, on retrouve le même genre de thème.
On peut bien dire que c'est un classique.
Voilà. Donc, ils vivent. Bon, c'est un classique, mais c'est quand même pas un lieu où vivent beaucoup d'enfants, quoi.
Ah ouais.
Donc, pourquoi l'idée de cet arbre dans lequel ils vivent?
Déjà, parce que ils ont une situation familiale particulière parce que les parents de Noémie sont des grands voyageurs. Ils sont très riches. Ils sont donc ils sont toujours en voyage. Et Noémie, elle est souvent tout seule avec le
son cousin,
voilà, Emilien. Et son père, le père d'Emilien, c'est un génie, un inventeur. Et donc, il aussi voyage beaucoup. Il participe à des concours, à des festivals. Et donc, finalement, les deux cousins, ils sont seuls. Ils habitent dans un pensionnat. Et là, comme ils sont très intelligents et très créatifs, ils se sont construits cet univers à eux, et c'est la maison sous l'arbre. Et le pensionnat, ils ont permis quelque part que les enfants, ils ont un monde à eux à maîtriser. Mais finalement, c'est une sorte de cabane comme ce qu'on pouvait avoir. Nous, on est chez nous, mais on a notre petite cabane. Ils habitent dans un pensionnat, ils ont une grande cabane parce qu'ils sont des génies et ils sont super efficients.
Donc, les parents de Noémie vont revenir. On a oublié de dire que ça se passe en Angleterre.
Hein. Ouais.
L'histoire des parents en Angleterre, ça c'est important de savoir géographiquement.
Dans les alentours de Londres.
Dans les alentours de Londres. Alors, Noémie, les parents de Noémie vont envoyer un chambellan, un majordome, pour venir chercher Noémie et Julien, pour les emmener dans où ils sont, et pas Julien et Emilien, pour les emmener chez eux. Là, donc, ils vont arriver dans une maison, ils vont faire des découvertes, absolument extraordinaires, quoi.
Oui, parce que c'est le manoir de la famille où Alexander, c'est le père d'Emilien, fait ses inventions. Donc il y a des choses incroyables, le laboratoire secret d'Alexander. Oui, donc ils vont découvrir plein de choses, et surtout ils vont découvrir qu'il était en train de préparer son prototype pour participer au concours Jules Verne.
Un concours Jules Verne. Oui.
Parce que tout l'ouvrage, c'est un peu inspiré de l'univers Jules Verne. Alexander a été kidnappé.
Oui, il est disparu.
Il est disparu, voilà.
Ouais, Alexander a disparu et c'est lui qui préparait. Alors, le concours Jules Verne, c'est un concours où des gens construisent des véhicules qui doivent être aussi bien utilisables sous l'eau, sur terre et dans l'air.
Exactement.
Des véhicules, donc. Et il y a plein de gens qui s'inscrivent. Il était en train de préparer ce véhicule et il a disparu et on ne sait pas pourquoi.
Voilà, et donc les deux enfants s'engagent pour retrouver Alexander et pour faire ça, ils décident de participer au concours Jules Verne. Donc ils vont aboutir la construction du prototype pour pouvoir participer. Et après, bon, ça donne le start pour plein d'aventures.
Ouais, voilà, donc cette volonté de participer au concours Jules Verne, on va les entraîner dans les aventures. Alors là, j'ai mis à l'écran une image qui me semble absolument extraordinaire. C'est l'image du laboratoire secret du père d'Emilien. Alors, tu peux nous la commenter parce que c'est. On voit les personnages, on voit les décors. Moi, je me demande comment tu as. Pour réaliser ce dessin, comment tu as fait, parce que c'est une pleine page, c'est une grande page, il y a énormément de détails. Explique-nous un peu.
Ouais,
parce que c'est peut-être la magie du dessin et du dessinateur qui arrive.
Écoute, là. Parfois, ça arrive un peu par hasard, c'est-à-dire que j'avais en tête de réaliser un endroit magnifique, absolument extraordinaire, donc j'ai commencé à mélanger des choses. Il fallait avoir les personnages et le véhicule couvert, tu vois, il est couvert par un drapeau blanc.
Oui, on voit le véhicule qui est caché.
Voilà, mais par
contre, il est là.
Voilà, et par contre, je devais donner l'idée d'un lieu. Plein de trucs d'invention particulière, donc il y a des ruines anciennes, d'autres choses qu'on ne voit, on ne reconnaît pas forcément, des laboratoires, et finalement on est arrivé à ça, mais bon, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais pas mal. Hein.
J'imagine que ça lui prend beaucoup de temps, il y a les personnages qu'on voit en bas, là, et qui disent la vache, comment c'est ça ?
La vache, oui.
C'est ça, donc ils sont étonnés, ils arrivent dans ce lieu. Lieu extraordinaire qui va nous situer. Alors bon, on ne peut pas le dire, mais là tu nous plonges dans un univers vernien carrément. Il n'y en a pas tellement comme ça en bande dessinée.
Oui, mais le défi c'était un peu ça,
de
retrouver vraiment l'esprit vernien sans faire une adaptation. Donc c'est une aventure originelle, mais avec vraiment cet esprit que tu peux voir, ressentir dans chaque page.
Ouais, donc là, on voit en un dessin noir et blanc, le véhicule qu'ils ont fait. Alors, on va parler du travail en noir et blanc, là, parce que c'est une grande page. Je veux dire que ça, c'est quand même la construction, parce que si on regarde bien l'image, bon, l'arbre, déjà, il y a plein de choses dedans. Si on regarde le dôme au fond, il est quand même très détaillé. On regarde le véhicule, il y a quatre personnages de véhicule, on voit les dessous de l'eau, on voit la végétation en bas. Donc,
on a aussi un robot en bas, à droite.
Il y a un robot, on peut faire l'image. Donc, tu veux dire, toi, pour faire ça, donc, c'est un travail de Romain, ça te va bien comme
ça. Oui, déjà, faire une couverture, c'est une chose différente que faire deux pages, parce que là, dans une image, tu dois raconter tout ce que tu peux trouver dans l'album, sans rien raconter, finalement. Et en plus, le lecteur qui arrive dans la librairie, il voit que la couverture, finalement. Donc, la première choix, c'est fait sur la couverture. C'est un outil extrêmement important pour rejoindre les lecteurs. Et donc, à chaque fois, c'est un défi énorme. Et ça ne concerne pas que moi, ça concerne le scénariste, le coloriste et les commerciaux de l'éditeur. Parce que là, pour eux, c'est super important que la couverture soit quelque chose qui matche.
Maintenant, on voit le même dessin en couleur.
Voilà.
Ça, c'est bien de voir quand même entre comment les passages, quoi. Et là, on s'aperçoit de tout ce qu'il y a dedans. Alors, là, on voit vraiment la différence, vraiment le travail du coloriste, quoi. Parce que là, tout ce que tu avais fait, en plus, comme tu avais un dessin qui était très chargé, il y a beaucoup de choses dedans, le travail du coloriste n'en est que plus compliqué, plus difficile pour ne pas être, comment dire, perdre de ce que tu avais fait, et surtout le mettre bien en valeur, et que tout ce que vous vouliez mettre en valeur, ça, c'est un travail de collaboration, quand même.
Ouais, et là, on parle de coloriste, qui s'appelle Gaspard Ivan, c'est un jeune coloriste, il habite, je crois, en Dordogne. Et, bon, finalement, on a trouvé vraiment une situation d'équilibre incroyable entre le scénariste, Nicolas Philippi, moi, et Gaspard. Je trouve que mon dessin, avec sa mise en couleur, va gagner beaucoup. Donc, je le remercie toujours, parce qu'il fait un travail magnifique. Là, on a fait des choix assez particuliers pour une couverture parce qu'on a décidé de placer la scène dans le petit matin.
Ouais.
Donc avec un peu la brume.
Voilà, la brume, les couleurs
anglais, tu vois.
Un peu des couleurs de lever de soleil. Là,
voilà, on voulait avoir la lumière qui vient de l'intérieur du prototype, ouais. Mais, parce que ça rajoute de la magie.
Ouais.
Il y a plein de choses qu'on a décidé de faire et finalement.
Ouais, mais déjà, de mettre des vols d'oiseaux, tu vois, comme on en voit là, espèce de grenouille par là. Donc, c'est un vrai tableau.
Oui,
c'est un vrai tableau. Il y a l'oiseau qui s'envole, il y a les dômes derrière, il y a un drapeau qui flotte. Là, vous avez mis un nombre d'informations extraordinaires. Hein.
Oui, là, le défi, c'est toujours de mettre assez d'informations, mais pas trop. Parce qu'après, sinon, tu vas un peu boucher la situation,
et puis ça garde, ce qui est fort, c'est que ça garde toute sa lisibilité, quoi.
Oui, mais bah, je trouve que c'est une couverture bien réussie, finalement, parce que, bon, j'ai fait pas mal de festivals, et les lecteurs, à chaque fois, me confirment ça, donc je suis assez content.
Donc, on va revenir à nos héros, Noémie et Emilien, donc ils ont décidé de poursuivre le travail du père d'Emilien et de participer au trophée Jules Verne. Et pour ça, il faut qu'ils réalisent un véhicule. Donc, on va partir ce véhicule. Comment dire, ils vont d'abord construire, utiliser un véhicule pour partir, parce que à la fin du premier album, ils doivent partir vers la France, quoi.
Oui.
Alors,
déjà, il y a la guerre qui arrive à Londres.
Qui arrive à Londres avec. Et puis, il y a aussi la troisième force qui arrive, quelque chose d'important. Ouais.
Exactement. Et donc, ils décident de partir pour deux raisons. La première, c'est de mettre en sécurité. La deuxième, c'est de pouvoir participer au concours parce que c'est fixé à Paris,
ouais,
le départ.
Oui, le départ est à Paris, oui.
Donc, on a le premier tome qui c'est de préparation au trophée Jules Verne. Le deuxième tome où il part pour Paris. On aura plein d'aventures à Paris. Ouais. Et après, le troisième qui conclut le premier cycle, il faut le dire, parce que c'est une trilogie complète, où on se déplace à New York avec un autre engin incroyable, c'est un dirigeable mélangé avec autre chose. Et là aussi, on découvre que Londres a changé, que Paris a changé, et que New York aussi.
Les villes, alors, la reconstruction des villes que vous avez faites, je cherche une image, voilà. Ouais, ça, c'est en troisième. Là, on voit l'arrivée à New York avec le véhicule. Là, ça, c'est fabuleux. Donc là aussi, vous avez... Alors,
tu as travaillé sur les décors, tu as travaillé sur les véhicules. Bon, tu es allé visiter les machines de Lille ce matin.
Ouais.
Bon, tu les as reconnues?
Oui, mais je suis monté sur l'éléphant géant.
Voilà. Ouais. Non, puis même dans le carrousel, quoi. Ouais. On retrouve des choses. Même sans les avoir vues, tu as fait des choses on voit qu'il y a la même inspiration, que quelque chose, il y a une ressemblance énorme entre vous.
Ouais, en fait, je crois que les secrets, quelque part, des inventions de Jules Verne, c'est fait parce qu'on a vraiment une idée super moderne avec une technologie qui n'arrive pas encore à supporter ça.
Ouais.
Et donc, on a du d'acier, du bois, de la vapeur. Et ça donne un côté vraiment un peu steampunk, ancienne, moderne. Et je crois que c'est avec un design un peu rétro, tu vois. Et je crois que ça, c'est fascinant quelque part pour tous. C'est particulier parce que c'est pas de la modernité glisse sans rien, mais c'est plein de décors, de détails.
Ouais, c'est fait d'énormément de détails, de petites choses qui sont assemblées dans quelque chose.
On voit ces robots aussi qu'on voit dans la couverture du troisième album. C'est pas qu'un robot avec des bras et des jambes, mais on voit le mécanisme, on voit plein de choses.
Ouais. Je cherche une image dans les bois, non. Ça c'est de Londres.
Oui, ça c'est Londres.
Tu sais où ils sont, tu sais plus. Hein.
Ça c'est les. Ouais, c'est son mélangé de trois tomes.
Ouais, là, il y a un truc.
Là, c'est Paris, voilà.
Paris qui subit les outrages de la guerre, quoi. Donc la tour Eiffel est un peu. Et, comment dire, un peu. Elle ressemble à la tour de Pise.
Oui, c'est là le cadrage, la perspective.
Là, on voit, là aussi, écoute, sur cette image, il y a des choses absolument fabuleuses. Quoi.
Mais là, après, on a le robot gorille qui grimpe sur la tour.
Oui, donc c'est. Toi, alors, quand tu reçois le scénario de la personne qui l'a fait, comment tu vas partir de ça? Qu'est-ce qu'il te dit? Par exemple, il te dit. On va dire, allez, on va prendre une planche par hasard. Comment il te décrit cette image, par exemple, ton scénariste?
Voilà. Nous, on fait toujours des blagues entre nous, parce que j'ai dit toujours, bon, pour vous, c'est facile. Vous dites, voir toute Londres en plongée avec plein de dirigeables partout, et c'est fait. Et après, c'est du dessinateur de faire tout ça. Mais c'est pas vrai, évidemment, mais. Parfois, je vois les descriptives, je deviens dépressif parce qu'il y a tellement de choses à faire. Mais après, à petit, tu te plonges dans l'univers et tu commences à décider qu'en faire. Là, j'imagine que les descriptives, c'était plein page avec la tour Eiffel en contre-plongée, peut-être.
Ouais, contre-plongée, donc on va voir dessous. Hein, on va expliquer un peu.
Voilà. Le dirigeable, on doit le voir aussi. Ouais. Et là, c'était déjà compliqué parce que la tour, a priori, c'est verticale,
ouais.
Et le dirigeable il est horizontal, donc on a dû imaginer une composition particulière, que c'est ça. Et après on a trois inserts, qui sont des cases
plus petites, trois inserts là,
insérés
deux,
dans
deux,
la
trois.
Grande image.
Ouais.
Et chaque insert doit raconter en détail quelque chose qui se passe. Et comme ça tu peux continuer à raconter des choses, mais tu ne perds pas le spectacle de la grande case.
Ouais, ouais, et on garde le rythme, hein, tu vois, parce voilà. Que le rythme de lecture va être comme ça, quoi, finalement.
Exactement. Donc, tu vois les gens qui montent sur le dirigeable, tu vois une particulière du dirigeable, et tu vois les caisses qui sont chargées, parce qu'on a tous les véhicules du concours Jules Verne qui vont être chargés sur le dirigeable.
Ouais, d'accord. Et pour une case comme ça, qu'est-ce qui te dit ton.
Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Donc, pour une planche comme ça,
voilà,
c'est compliqué.
Plonger de toute Londres, voir toute l'Angleterre.
Voilà la plongée là, de Londres, la plongée sur Londres, avec des fumées qui s'échappent.
Voilà, parce qu'il y a la guerre, donc quelque part, il y a des explosions, mais il faut déjà reconnaître qu'on est à Londres.
On a le pont, le pont du Ben.
Ouais, en fond, on voit le pont. Tower Bridge, mais on a aussi des ponts qui n'existent pas dans la réalité.
Ah, d'accord.
C'est ça parce qu'on est toujours dans un uchronie.
Ouais.
Et donc, oui, c'est Londres, mais c'est pas vraiment Londres.
Ouais, on le reconnaît, mais c'est pas celui qu'on. Si on est allé à Londres, c'est pas celui qu'on verra.
Bah, après, si tu regardes, on a quelque part la page avec Paris, et là, on reconnaît.
Ah, bah là, on revoit Londres avec le Tower Bridge, là.
Là, on reconnaît, je ne sais pas, Notre-Dame,
le Sacré-Cœur. Ah, voilà, c'est voilà. Ça, voilà la page avec Paris, quoi.
Mais tu vois, à la droite du Sacré-Cœur, on a une tour qui n'existe pas.
Donc, ouais. Tu vois, donc, presque la tourluge. Ça
pourrait être ça. Donc, c'est aussi une situation où tu peux imaginer que Paris a changé parce que la technologie est différente par rapport à ce qu'on a normalement.
D'accord. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est quand même un gros travail de réflexion que vous faites, quoi.
Oui, déjà, il y a un gros travail de recherche sur la documentation, parce que tu dois dessiner le Tower Bridge.
Oui, tu ne peux pas le faire comme tu veux, il faut que tu sois bien précis. Hein.
Voilà, j'ai pris des photos quand j'ai visité Londres, mais après, bon, aujourd'hui, avec Internet, c'est super facile par rapport à l'époque. Moi, j'avais plein de livres chez moi, à chaque fois, je disais, alors, donc, du coup, j'avais vu cette photo-là, alors, la rechercher dans des gros livres. Maintenant, tu as Google, tu tapes
et tu trouves tout ce que tu veux. Oui, donc cette recherche de documentation, quand même, est super importante. Alors, toi, tu redessines vraiment d'après dessin ou alors tu redessines, tu gardes une photo et tu redessines d'après la photo, tu la copies et tu fais une copie d'après photo.
Non, ça dépend parce que il faut avoir de la chance pour trouver vraiment l'image que tu as en tête. Et ça arrive presque jamais. Donc, tu vois. J'avais en tête ces cadrages-là pour cette scène, mais je n'ai pas forcément trouvé une photo du Tower Bridge dans cet angle de vue. Donc, non, tu vois des photos, tu fais une sorte de reconstruction mentale, et après tu le redescends à ton goût et selon les nécessités de la page. Donc, c'est jamais une simple copie-colle, parce que ça serait trop facile. Mais c'est plutôt vraiment une reconstruction mentale de l'architecture pour le mettre à ton service, quelque part.
Donc c'est vrai, c'est vraiment un travail. Il y a un travail d'abord de conception, puis après au passage sur le dessin avec la main, quoi.
Oui, après, tu vois, la documentation est essentielle parce que tu ne peux pas dessiner des choses qui ne soient pas vraiment reconnaissables. Parce que le lecteur, finalement, il va voir, il va reconnaître des choses qu'il a vues dans des photos, et donc c'est un peu le deux, inventer mais sans changer vraiment la réalité.
D'accord.
Sinon tu risques de faire une chose que les gens disent, c'est quoi ça?
Ouais, donc dans cette série, Le Voyage Extraordinaire, on a parlé quand même, comme elle est très inspirée, on a parlé des décors, on a parlé des véhicules, on a parlé de toutes ces constructions que vous avez faites, de toute cette imagination que vous avez développée pour mettre au point tout le décor. Mais alors, les personnages, oui, moi aussi, quand on regarde les personnages, il y a un choix de dessin, ils ont des grands yeux, ils ont, leurs vêtements sont, alors, ils ne sont pas du tout chroniques, hein, ils sont plutôt un peu à l'étrange, ils sont un peu désuets, non?
Oui, là aussi, on a toujours le même problème, ce n'est pas un problème, c'est un défi plutôt, de faire quelque chose qui colle à l'époque, mais qui ne soit pas forcément super réaliste. Donc on a des choses qui semblent être de l'époque sans l'être vraiment.
Ouais.
Mais c'est un travail délicat, j'espère réussi.
Voilà. Oui, c'est réussi, les personnages sont très attachants. Et puis, alors, ce qu'il faut penser quand même, le scénariste c'est quelqu'un de très intelligent.
Ah oui.
Le dessinateur aussi, comme des gens intelligents.
J'espère bien.
Très très intelligent. C'est que vous avez fait une histoire qui est pleine de rebondissements. Ça, on est quand même dans la grande, très, très grande aventure. Bon, Noémie, Emilien, et puis les gens qui les accompagnent, ils vont avoir des péripéties, ils vont aller sous l'eau, ils vont dans l'air, ils vont partout, quoi. Et ils vont essayer de nous amener, nous découvrir un imaginaire que vous avez créé et vous nous entraîner dans un truc qui est vraiment extraordinaire, quoi.
Il y a une chose...
Enfin, je veux dire aussi que le lecteur fait un voyage extraordinaire à travers ces trois livres, quoi.
Je veux rajouter une chose pour moi importante, parce que c'est quelque chose où on a pas mal échangé avec Denis Pierre et Philippe, c'est l'épaisseur des personnages. Parce que oui, c'est de l'aventure, c'est du rebondissement, mais il y a aussi un jeu familial,
des
liens personnels entre les personnages, une situation compliquée à gérer pour les enfants, pour les parents. Il y a une tante d'Emilien qui n'est peut-être pas une tante, quelque chose d'autre. Et donc, il y a des passages délicats du rapport entre les personnages que j'aime particulièrement.
Donc, la série Le Voyage Extraordinaire, pour l'instant, vous avez clos le premier cycle en trois albums, qui sont
trop.
Ouais, c'est compliqué, je crois que c'est des 44 pages, hein, je n'ai pas compté.
Ils sont 46 pour les premières deux et 48, je crois, pour les trois.
Ouais, ce qui est déjà, ce qui fait déjà beaucoup d'informations et beaucoup de rebondissements. Donc, cette série, vous allez, j'espère, la prolonger, vous avez...
Oui, on vient de trouver l'accord avec notre éditeur, que c'est Van Vues Glénat, pour faire une autre trilogie. Donc, ce sera une autre trilogie complète avec Noémie et Emilien, mais ce sera une autre histoire. Mmh. Et le titre sera Les Îles Mystérieuses.
Quand Jules Verne, hein.
Voilà.
C'est encore Jules Verne, on va redécouvrir Jules Verne dedans, voilà. Dans cette histoire. Ouais. Mais alors, ce qui est intéressant dans les trois premiers aussi, c'est comment vous abordez le. Il y a trois lieux principaux qui sont Londres, Paris et New York. Comment vous abordez ces trois villes, comment vous les décrivez? Alors, dans les îles mystérieuses, on va passer à quelque chose qui ne sera pas urbain.
Non, c'est un peu un mélange, encore une fois, parce qu'on repartira du manoir de Londres.
On revient à
l'époque. On ira à San Francisco.
Ah ouais?
Voilà. Il y a plein de choses incroyables à San Francisco, parce qu'évidemment, ce ne sera pas San Francisco normal, mais ça sera changé. Et après, on aura des îles.
Des îles passées.
Mystérieuses.
Mystérieuses. Donc, voilà, on va attendre cela avec impatience. Tu as d'autres projets autrement, Silvio?
Maintenant, je viens de terminer les pages pour le one-shot de Gargouille, parce que Gargouille, c'est terminé la série principale en septembre, mais on a décidé de faire des one-shots avec. Une situation un peu changée par rapport au premier cycle. Donc Grégoire, il est un peu grandi, il est un peu plus adolescent quelque part, et donc on a des problématiques un peu différentes. Et un peu comme dans Willy Wonder, il vient de retrouver une situation familiale compliquée parce que ses parents viennent de divorcer. Et par ailleurs, il est devenu mage. Il est un super mage puissant, mais il n'a pas réussi à éviter que ses parents divorcent. Donc ça a été frustrant pour lui et il a décidé de quitter la magie. Donc il ne veut plus utiliser la magie parce qu'il dit bon, c'est inutile. Je peux faire plein de choses, je peux voyager dans des univers magiques, mais je ne suis pas arrivé à éviter les problèmes que j'ai chez moi. Et donc là, c'est un choix super compliqué parce que sa sœur, par contre, elle continue à être le mage, sorcière. Voilà. Mais par contre, dans cet album, il va être obligé
à utiliser la magie.
Parce qu'il va découvrir un univers caché. Ouais. Mais ça, c'est compliqué parce qu'a priori, dans la première série, ils avaient bouclé. Mmh. Toutes les assets. Mmh. Mais par contre, évidemment, non, il y a encore quelque chose. Donc, il va être obligé à partir pour sauver son ami Itsuki.
D'accord.
Et donc, il arrive dans cet univers magique. Mais là, il ne peut pas utiliser sa magie. C'est pas possible. Donc, il doit utiliser ses connaissances du monde magique d'une façon normale, jusqu'à la fin. Et évidemment, ça devient super difficile.
D'accord, donc c'est un beau projet encore que tu as, qu'on a hâte de voir.
Il faut dire aussi que là, avec moi et Denis Pierre, on a Gaspard Ivan à la couleur, donc le même coloriste du Voyage Extraordinaire.
Ah, okay.
Et je crois que c'est quelque chose qui va rajouter de la magie.
Qui a rajouté, ouais. Ouais. On voit les images, là, c'est vrai que c'est quand on revient, mais quand même c'est... Tu as une tonalité différente. Dans les voyages extraordinaires, c'est quand même plus industriel, plus mécanique. Tandis que là, on est dans le monde de la magie, du rêve, on est plus proche d'Harry Potter, quoi.
Oui, là, on a un univers complètement dans un arbre gigantesque. C'est un arbre univers.
Ah, ok.
Et donc, évidemment, là, c'est la nature, la jungle, c'est des singes particuliers, ce sont des êtres merveilleux qui n'existent pas dans la réalité.
Ah, bon, c'est super, ça. Parce que tout à l'heure, on en parlait avec Louis Georges qui a fait Canopée, là, qui en a dîné. Et puis, elle, son histoire se passe dans la forêt amazonienne. Bon, elle est très différente, mais c'est vrai qu'on retrouve des animaux, enfin, on voit des animaux extraordinaires. Moi, ce qui m'étonne, c'est ce qui me fascine, c'est l'imagination que vous avez tous les deux pour faire ça. C'est absolument fabuleux, quoi. C'est
vraiment top. Voilà, ça c'est. Tu viens de passer, non, la page que tu as juste.
Celle-là
voilà. Là, c'est la cascade ascensionnelle. Donc, c'est une cascade qui monte plutôt que descend.
Ah oui, l'eau monte, voilà. Oui. C'était, ouais, d'accord. Ouais, ça on a hâte, parce que alors là, le dessin, quand ouais. on regarde ton dessin.
Je vais préciser que je n'utilise pas de drogue. Hein. Voilà. C'est normal.
C'est normal. Ouais. Mais on voit les personnages, et, ouais, quand on regarde la planche, là, il faut quand même regarder tous les détails pour tout apprécier. Quoi. Et la mise en couleur, et ben, c'est
musée. Ouais, 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 oui, c'est compliqué aussi. Je crois que parfois, Gaspard me déteste.
Ouais. Ouais, donc je pense que toi, tu. Ouais, je pense aussi. Tu conçois quand même la bande dessinée qu'avec comment dire, de la couleur. Quoi. C'est un noir et blanc et c'est un alliage de bande dessinée et couleur pour définir ces mondes magiques ou ces mondes de science-fiction. Quoi. Au contraire, il y a des dessinateurs qui font des choses qui sont que noir et blanc avec des traits, comme François Schuiten, Schuiten par exemple, qui ne travaillent que. Et plein qui travaillent que en noir et blanc. Donc, toi, tu ne pourrais pas le faire, ça
Oui, après aussi. Mais le problème là, c'est qu'on essaie de faire des séries tout public.
Ouais. Donc,
Et donc, ce n'est pas possible d'imaginer de faire une chose tout public sans la couleur, ça ouais. devient compliqué. Par contre, si on va avoir envie de faire une chose plus autoriale, plus personnelle, oui, là tu peux faire des choix plus drastiques niveau stylistique.
Oui, bien sûr. Ouais.
Mais évidemment, ça risque d'être tellement personnel.
Devenir un peu plus confidentiel. Quoi.
Voilà, c'est ça. On est dans un marché un peu compliqué. Pour l'instant, on s'engage pour le tout public.
Ok, je comprends bien. Donc, bah, écoute, Silvio, je te remercie. Moi, je suis heureux que tu aies pu nous parler de ton travail, que tu sois venu d'aussi loin de Cagliari pour nous parler de bande dessinée et puis de voir un Italien qui nous parle de Jules Verne avec autant d'enthousiasme. Ça fait vraiment plaisir. Surtout à Nantes.
Merci beaucoup.